Chapitre 18, le chant des morts, le retour. Aux grandes tempêtes succède toujours le calme, calme effrayant, mais réparateur. Il était 2 heures du matin, ou à peu près, de grands nuages blancs courant sur Paris, dessinant très énergiques, sous une lune blafarde, les inégalités de ce terrain funeste au fossé duquel la foule qui s'enfuyait avait trouvé la chute et la mort. Ça et là, à la lueur de la lune, perdue de temps en temps au sein de ces grands nuages floconneux dont nous avons parlé et qui tamisaient la lumière, ça et là, disions-nous, au bord des talus, dans les fondrières, apparaissaient des cadavres, aux vêtements en désordre, les jambes roides, le front livide, les mains étendues en signe de terreur ou de prière. Au milieu de la place, une fumée jaune et infecte, s'échappant des décombres de la charpente, contribuait à donner à la place Louis XV une apparence de champ de bataille. À travers cette place sanglante et désolée, serpentaient mystérieusement et d'un pas rapide des ombres qui s'arrêtaient, regardaient autour d'elles, se baissaient et fuyaient. C'étaient les voleurs de la mort, attirés vers leur proie comme des corbeaux. Ils n'avaient pu dépouiller les vivants, ils venaient dépouiller les cadavres, tout surpris d'avoir été prévenus par des confrères. On les voyait se sauver, mécontents et effarés à la vue des tardives baïonnettes qui les menaçaient. Mais au milieu de ces longues files de morts, les voleurs et le guet n'étaient pas les seuls que l'on vit se mouvoir. Il y avait, munis de lanternes, des gens que l'on eût pu prendre pour des curieux. Tristes curieux, hélas, car c'étaient les parents et les amis inquiets qui n'avaient vu rentrer ni leurs frères, ni leurs amis, ni leurs maîtresses. Or, il arrivait des quartiers les plus éloignés, car l'horrible nouvelle s'était déjà répandue dans Paris, désolante comme un ouragan, et les anxiétés s'étaient subitement traduites en recherche. C'était un spectacle plus affreux à voir peut-être que celui de la catastrophe. Toutes les impressions se peignaient sur ces visages pâles, depuis le désespoir de ceux qui retrouvaient le cadavre bien-aimé jusqu'au morne doute de celui qui ne trouvait rien et qui jetait un coup d'œil avide vers la rivière qui coulait monotone et frémissante. On disait que bien des cadavres avaient déjà été jetés au fleuve par la prévôté de Paris, qui, coupable d'imprudence, voulait cacher ce nombre effrayant de morts que son imprudence avait fait. Puis, quand ils ont rassasié leur vue du spectacle stérile, quand ils en ont été saturés, les deux pieds mouillés par l'eau de la Seine, l'âme étreinte de cette dernière angoisse traîne avec lui le cours nocturne d'une rivière, ils partent, la lanterne à la main, pour explorer les rues voisines de la place où, dit-on, beaucoup de blessés se sont traînés pour avoir du secours et fuir du moins le théâtre de leurs souffrances. Quand, par malheur, ils ont trouvé parmi les cadavres l'objet regretté, l'ami perdu, alors les cris succèdent à la déchirante surprise et des sanglots, s'élevant vers un nouveau point du théâtre sanglant, répondent à d'autres sanglots. Parfois encore la place retentit de bruits soudains. Tout à coup une lanterne tombe et se brise. Le vivant s'est jeté à corps perdu sur le mort pour l'embrasser une dernière fois. Toutefois l'extrémité de la place près du jardin s'organise avec le dévouement de la charité populaire, une ambulance. Un jeune chirurgien, on le reconnaît pour tel, du moins à la profusion d'instruments dont il est entouré, un jeune chirurgien se fait apporter les hommes et les femmes blessés. Il les pense, et tout en les pensant, il leur dit de ces mots qui expriment plutôt de la haine contre la cause que la pitié pour les faits. À ces deux aides, robustes colporteurs qui lui font passer la sanglante revue, il crie incessamment « Les femmes du peuple, les hommes du peuple d'abord, ils sont aisés à reconnaître, plus blessés presque toujours, moins richement parés, certainement ». À ces mots, répétés après chaque pansement avec une stridente monotonie, un jeune homme au front pâle, qui, un falot à la main, cherche parmi les cadavres, a, pour la seconde fois, relevé la tête. Une large blessure qui lui sillonne le front laisse échapper quelques gouttes de sang vermeil. Un de ses bras est soutenu par son habit qui l'enferme entre deux boutons. Son visage, couvert de sueur, trahit une émotion incessante et profonde. À cette recommandation du médecin entendue, comme nous l'avons dit pour la seconde fois, il releva la tête, regardant tristement ses membres mutilés que l'opérateur semblait lui regarder presque avec délice. « Oh, monsieur, dit-il, pourquoi choisissez-vous parmi les victimes ?»« Parce que, dit le chirurgien, levant la tête à cette interpellation, parce que personne ne soignera les pauvres si je ne pense pas à eux, et que les riches seront toujours assez recherchés. Abaissez votre lanterne et interrogez le pavé, vous trouverez 100 pauvres pour un riche ou un noble, et, dans cette catastrophe encore, avec un bonheur qui finira par lasser Dieu lui-même, les nobles et les riches ont payé le tribut qu'ils payent d'ordinaire, 1 sur 1000. » Le jeune homme éleva son falot à la hauteur de son front sanglant. « Alors je suis donc le seul, dit-il, sans s'irriter, moi, gentilhomme perdu comme tant d'autres en cette foule, moins qu'un coup de pied de cheval a blessé au front et qui me suis brisé le bras gauche en tombant dans un fossé. On court après les riches et les nobles, dites-vous. Vous voyez bien cependant que je ne suis pas encore pansé. Vous avez votre hôtel, vous, votre médecin, retournez chez vous puisque vous marchez. » « Je ne vous demande pas vos soins, monsieur. Je cherche ma sœur, une belle jeune fille de 16 ans, hélas, tuée sans doute, quoiqu'elle ne soit pas du peuple. Elle avait une robe blanche et un collier avec une croix au cou. Bien qu'elle ait son hôtel et son médecin, répondez-moi par pitié. Avez-vous vu, monsieur, celle que je cherche ?»« Monsieur, dit le jeune chirurgien avec une véhémence fiévreuse qui prouvait que les idées exprimées par lui bouillonnaient depuis longtemps dans sa poitrine, monsieur, l'humanité me guide, c'est pour elle que je me dévoue, et quand je laisse sur son lit de mort l'aristocratie pour relever le peuple en souffrance, j'obéis à la loi véritable de cette humanité dont j'ai fait ma déesse. Tous les malheurs arrivés aujourd'hui viennent de vous, ils viennent de vos abus, de vos envahissements. « Supportez-en donc les conséquences. Non, monsieur, je n'ai pas vu votre sœur. » Et sur cette foudroyante apostrophe, l'opérateur se remit à la besogne. On venait de lui apporter une pauvre femme dont un carrosse avait broyé les deux jambes. « Voyez, ajouta-t-il en poursuivant de ce cri Philippe qui s'enfuyait, « voyez, sont-ce les pauvres qui lancent dans les fêtes publiques leurs carrosses de façon à broyer les jambes des riches ?» Philippe, qui appartenait à cette jeune noblesse qui nous a donné les Lafayette et les Lamette, avait plus d'une fois professé les mêmes maximes qui l'épouvantaient dans la bouche de ce jeune homme. Leur application retomba sur lui comme un châtiment. Le cœur brisé, il s'éloigna des environs de l'ambulance pour suivre sa triste exploration. Au bout d'un instant, emporté par douleur, on l'entendit crier d'une voix pleine de larmes « André, André !» Près de lui passait en ce moment, marchant d'un pas précipité, un homme déjà vieux, vêtu d'un habit de drap gris, de bas drapés, et de la main droite s'appuyant sur une canne, tandis que de la gauche, il tenait une de ses lanternes faites d'une chandelle enfermée dans du papier huilé. Entendant gémir ainsi Philippe, cet homme comprit qu'il souffrait et murmura « Pauvre jeune homme !» Mais comme il paraissait être venu pour une cause pareille à la sienne, il passa outre. Puis, tout à coup, comme s'il se fût reproché d'être passé devant une si grande douleur, sans avoir essayé d'y apporter quelque consolation, « Monsieur, lui dit-il, pardonnez-moi de mêler ma douleur à la vôtre, mais ceux qui sont frappés du même coup doivent s'appuyer l'un à l'autre pour ne pas tomber. D'ailleurs, vous pouvez m'être utile. Vous cherchez depuis longtemps, car votre bougie est près de s'éteindre. Vous devez donc connaître les endroits les plus funestes de la place. Oh oui, monsieur, je les connais. Eh bien, moi aussi, je cherche quelqu'un. Alors, voyez d'abord au grand fossé. Là, vous trouverez plus de 50 cadavres. 50, juste ciel! Tant de victimes tuées au milieu d'une fête! Tant de victimes, monsieur, j'ai déjà éclairé 1000 visages et je n'ai pas encore retrouvé ma sœur. Votre sœur, c'est là-bas, dans cette direction qu'elle était. Je l'ai perdue près d'un banc. J'ai retrouvé la place où je l'avais perdue, mais d'elle, nulle trace. Je vais recommencer à la chercher à partir du bastion. De quel côté allait la foule, monsieur? Vers les bâtiments neufs, vers la rue de la Madeleine. Alors, ce doit être de ce côté. « Sans doute aussi ai-je cherché de ce côté d'abord, mais il y avait de terribles remous. Et puis le flot allait par là, c'est vrai, mais une pauvre femme qui a la tête perdue, ne sait où elle va, et cherche à fuir dans toutes les directions. Monsieur, c'est peu probable qu'elle ait lutté contre le courant. Je vais chercher du côté des rues. Venez avec moi, et tous deux réunis, peut-être nous trouverons. Et que cherchez-vous, votre fils ? Demanda timidement Philippe. Non, monsieur, mais un enfant que j'avais presque adopté. Vous l'avez laissé venir seul ? Oh, c'était un jeune homme déjà, 18 à 19 ans, maître de ses actions. Il a voulu venir, je n'ai pas pu l'empêcher. D'ailleurs, on était si loin de deviner cette horrible catastrophe. Votre bougie s'éteint. Oui, monsieur, mais venez avec moi, je vous éclairerai. Merci, vous êtes bien bon, mais je vous gênerai. Oh, ne craignez rien, puisqu'il faut que je cherche pour moi-même. Le pauvre enfant rentrait d'ordinaire exactement, continua le vieillard en s'avançant par les rues, mais ce soir j'avais comme un pressentiment. Je l'attendais, il était 11 heures déjà. Ma femme a appris d'une voisine les malheurs de cette fête. J'ai attendu 2 heures, espérant toujours qu'il rentrerait, ne le voyant pas rentrer. J'ai pensé qu'il serait lâche à moi de dormir sans nouvelles. Ainsi, nous allons vers la maison, demanda le jeune homme. Oui, vous l'avez dit, la foule a dû se porter de ce côté, et s'y est portée, certainement. C'est là, sans doute, qu'aura couru le malheureux enfant, un provincial, tout ignorant non seulement des usages, mais des rues de la grande ville. Peut-être était-ce la première fois qu'il venait sur la place Louis XV. Hélas, ma sœur aussi est de province, monsieur. Affreux spectacle, dit le vieillard en se détournant d'un groupe de cadavres entassés. « C'est pourtant là qu'il faut chercher, » dit le jeune homme, approchant résolument sa lanterne de ce monceau de corps. « Oh, je frissonne à regarder, car, homme simple que je suis, la destruction me cause une horreur que je ne puis vaincre. J'avais cette même horreur, mais ce soir j'ai fait mon apprentissage. Tenez, voici un jeune homme de 16 à 18 ans. Il a été étouffé, car je ne vois pas sur lui de blessure. Est-ce celui que vous cherchez ?» Le vieillard fit un effort et approcha sa lanterne. « Non, monsieur, dit-il, vraiment non, le mien est plus jeune, des cheveux noirs, un visage pâle. »« Hélas, ils sont tous pâles ce soir, » répliqua Philippe. « Oh, voyez, dit le vieillard, nous voilà au pied du garde-meuble. Voyez ces vestiges de la lutte, ce sang sur les murailles, ces lambeaux sur les barres de fer, ces morceaux d'habits flottant aux lances des grilles. Et puis, en vérité, on ne sait plus où marcher. » « c'était par ici, bien certainement, » murmura Philippe. « Que de souffrance !»« Ah, mon Dieu ! Quoi ? Un lambeau blanc sous ces cadavres ! Ma sœur avait une robe blanche. Prêtez-moi votre falot, monsieur, je vous en prie. » En effet, Philippe avait aperçu et saisi un lambeau d'étoffe blanche. Il le quitta, n'ayant qu'une main pour prendre le falot. « C'est un morceau de robe de femme que tient la main d'un jeune homme, » s'écria-t-il, « d'une robe blanche, pareille à celle d'André. Oh, André, André !» Et le jeune homme poussa un sanglot déchirant. Le vieillard s'approcha à son tour. « C'est lui !» s'écria-t-il en ouvrant les bras. Cette exclamation attira l'attention du jeune homme. « Gilbert !» s'écria à son tour Philippe. « Vous connaissez Gilbert, monsieur ? C'est Gilbert que vous cherchez ?» Les deux exclamations se croisèrent simultanément. Le vieillard saisit la main de Gilbert, elle était glacée. Philippe ouvrit le gilet du jeune homme, écarta la chemise et posa la main sur son cœur. « Pauvre Gilbert, » dit-il. « Mon cher enfant, » soupira le vieillard. « Il respire, il vit, vous dis-je, » s'écria Philippe. Oh, « Croyez-vous ? J'en suis sûr, son cœur bat !» Ah, « c'est vrai, » répondit le vieillard. « au secours, il a là un chirurgien. » « Oh, secourons-le nous-mêmes, monsieur. Tout à l'heure, je lui demandai du secours et il m'a refusé. »« Il faudra bien qu'il soigne mon enfant, » s'écria le vieillard exaspéré. « Il le faudra. Aidez-moi, monsieur, aidez-moi à lui conduire Gilbert. »« Je n'ai qu'un bras, » dit Philippe, « il est à vous, monsieur. »« Et moi, tout vieux que je suis, je serai fort. Allons. » Le vieillard saisit Gilbert par les épaules, le jeune homme passa les deux pieds sous son bras droit, et ils cheminèrent jusqu'au groupe que continuait de présider l'opérateur. « du secours !» cria le vieillard. « Les gens du peuple d'abord !» répondit le chirurgien, fidèle à sa maxime, et sûr qu'il était, chaque fois qu'il répondait ainsi, d'exciter un murmure d'admiration dans le groupe qui l'entourait. C'est un homme du peuple que j'apporte, dit le vieillard avec feu, mais commençant à ressentir un peu de cette admiration générale que cet absolutisme du jeune chirurgien soulevait autour de lui. Alors, après les femmes, dit le chirurgien, les hommes ont plus de force que les femmes pour supporter la douleur. Une simple saignée, monsieur, dit le vieillard, une saignée suffira. Encore vous, monsieur le gentilhomme, dit le chirurgien, apercevant Philippe avant d'apercevoir le vieillard. Philippe ne répondit rien, le vieillard crut que ses paroles s'adressaient à lui. « Je ne suis pas gentilhomme, dit-il, je suis homme du peuple, je m'appelle Jean-Jacques Rousseau. » Le médecin poussa un cri de surprise et faisant un signe impératif, « Place, dit-il, place à l'homme de la nature, place à l'émancipateur de l'humanité, place aux citoyens de Genève. »« Merci, monsieur, dit Rousseau, merci. » « Vous serait-il arrivé un accident, monsieur ?» demanda le jeune médecin. « Non, mais à ce pauvre enfant, voyez. »« Ah, vous aussi !» s'écria le médecin. « Vous aussi, comme moi, vous représentez la cause de l'humanité. » Rousseau, ému de ce triomphe inattendu, ne sut que balbutier quelques mots presque inintelligibles. Philippe, saisi de stupéfaction de se trouver en face du philosophe qu'il admirait, se tint à l'écart. On aida Rousseau à déposer Gilbert, toujours évanoui, sur la table. Ce fut en ce moment que Rousseau jeta un regard sur celui dont il invoquait le secours. C'était un jeune homme de l'âge de Gilbert à peu près, mais chez lequel aucun trait ne rappelait la jeunesse. Son teint jaune et flétri était celui d'un vieillard, sa paupière flasque recouvrait un œil de serpent, et sa bouche était tordue, comme l'est dans ses accès la bouche d'un épileptique. Les manches retroussées jusqu'au coude, les bras couverts de sang, entourés de tronçons humains, il semblait bien plutôt un bourreau à l'œuvre et enthousiaste de son métier qu'un médecin accomplissant sa triste et sainte mission. Cependant, le nom de Rousseau avait eu cette influence sur lui qu'il sembla un instant renoncer à sa brutalité ordinaire. Il ouvrit doucement la manche de Gilbert, comprima le bras avec une bande de linge et piqua la veine. Le sang coula, goutte à goutte d'abord, mais après quelques secondes, ce sang pur et généreux de la jeunesse commença de jaillir. « Allons, allons, on le sauvera, dit l'opérateur, mais il faudra de grands soins. La poitrine a été rudement froissée. » « Ah, il me reste à vous remercier, monsieur, dit Rousseau, et à vous louer, non pas de l'exclusion que vous faites en faveur des pauvres, mais de votre dévouement aux pauvres. Tous les hommes sont frères. Même les nobles, même les aristocrates, même les riches, demanda le chirurgien avec un regard qui fit briller son œil aigu sous sa lourde paupière. Même les nobles, même les aristocrates, même les riches, quand ils souffrent, dit Rousseau. « Pardonnez-moi, monsieur, dit l'opérateur, mais je suis né à Boudry, près de Neuchâtel. Je suis suisse comme vous, et par conséquent un peu démocrate. »« Un compatriote, s'écria Rousseau, un suisse. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur, votre nom. »« Un nom obscur, monsieur, le nom d'un homme modeste qui voue sa vie à l'étude en attendant qu'il puisse, comme vous, l'avouer au bonheur de l'humanité. Je me nomme Jean-Paul Marat. » « Merci, monsieur Marat, dit Rousseau, mais tout en éclairant ce peuple sur ses droits, ne l'excitez pas à la vengeance, car s'il se venge jamais, vous serez peut-être effrayé vous-même des représailles. » Marat sourit d'un affreux sourire. « Ah, si ce jour vient de mon vivant, dit-il, si j'ai le bonheur de voir ce jour !» Rousseau entendit ces paroles et effrayé de l'accent avec lequel elles avaient été dites, comme un voyageur est effrayé des premiers grondements d'un tonnerre lointain, il prit Gilbert dans ses bras et essaya de l'emporter. « Deux hommes de bonne volonté pour aider M. Rousseau, deux hommes du peuple, dit le chirurgien. « Nous, nous !» crièrent 10 voix. Rousseau n'eut qu'à choisir, il désigna 2 vigoureux commissionnaires qui prirent l'enfant entre leurs bras. Et se retirant, il passa près de Philippe. « Tenez, monsieur, dit-il, moi, je n'ai plus besoin de ma lanterne, prenez-la. »« Merci, monsieur, merci, dit Philippe. » Il saisit la lanterne, et tandis que Rousseau reprenait le chemin de la rue Plâtrière, il se remit à sa recherche. « Pauvre jeune homme, murmura Rousseau en se retournant et en le voyant disparaître dans les rues encombrées. » Et il continua son chemin en frissonnant, car on entendait toujours vibrer au-dessus de ce chant de deuil la voix stridente du chirurgien qui criait « Les gens du peuple, rien que les gens du peuple, malheur aux nobles, aux riches et aux aristocrates !» Pendant que ces 1000 catastrophes se succédaient les unes aux autres, M. de Tavernay échappait comme par miracle à tous les dangers. Incapable de déployer une résistance physique quelconque à cette force dévorante qui brisait tout ce qu'elle rencontrait, mais calme et habile, il avait su se maintenir au centre d'un groupe qui roulait vers la rue de la Madeleine. Ce groupe, froissé au parapet de la place, broyé aux angles du garde-meuble, laissait sur ses flancs une longue traînée de blessés et de morts, mais avait réussi, tout décimé qu'il était, à pousser son centre hors du péril. Aussitôt, la grappe d'hommes et de femmes s'était éparpillée sur le boulevard, en plein air, en jetant des cris de joie. Monsieur de Tavernay se trouva alors, comme tous ceux qui l'entouraient, tout à fait hors de danger. Ce que nous allons dire serait chose difficile à croire si nous n'avions pas dessiné depuis longtemps et d'une façon si franche le caractère du baron. Pendant tout cet effroyable voyage, Dieu lui pardonne, mais M. de Tavernay n'avait absolument songé qu'à lui. Outre qu'il n'était pas d'une complexion fort tendre, le baron était homme d'action, et dans les grandes crises de la vie, ces sortes de tempéraments mettent toujours en pratique cet adage de César, age quod agis. Ne disons donc point que M. de Tavernay avait été égoïste, admettons seulement qu'il avait été distrait. Mais une fois sur le pavé des boulevards, une fois à l'aise dans ses mouvements, une fois échappé de la mort pour rentrer dans la vie, une fois sûr de lui-même enfin, le baron poussa un grand cri de satisfaction qui fut suivi d'un autre cri. Ce dernier cri, plus faible que le premier, était cependant un cri de douleur. « Ma fille, dit-il, ma fille !» Et il demeura immobile, laissant retomber ses mains contre son corps, les yeux fixes et atones, cherchant dans ses souvenirs tous les détails de cette séparation. « Pauvre cher homme !» murmurèrent quelques femmes compatissantes. Et il se fit un cercle autour du baron, cercle prêt à le plaindre, mais surtout prêt à l'interroger. Monsieur de Tavernay n'avait pas les instincts populaires. Il se trouva mal à l'aise au milieu de ce cercle de gens compatissants. Il fit un effort pour le rompre, le rompit, et, disons-le à sa louange, fit quelques pas vers la place. Mais ces quelques pas étaient le mouvement irréfléchi de l'amour paternel, lequel n'est jamais complètement éteint dans le cœur de l'homme. Le raisonnement vint à l'instant même à l'aide du baron et l'arrêta court. Suivons, si on le veut, la marche de sa dialectique. D'abord l'impossibilité de remettre le pied sur la place Louis XV. Il y avait là-bas encombrement, massacre, et les flots arrivant de la place, il eût été aussi absurde de chercher à les fendre qu'il serait insensé aux nageurs de chercher à remonter la chute du Rhin à Chaffouze. En outre, même quand un bras divin l'eût replacé dans la foule, comment retrouver une femme parmi ces 100 000 femmes? Comment ne pas s'exposer de nouveau, et pour rien, à une mort miraculeusement évitée? Puis venait l'espérance, cette lueur qui dort toujours les franges de la plus sombre nuit. André n'était-elle pas auprès de Philippe, suspendu à son bras, sous la protection de l'homme et du frère? Que lui, le baron, un vieillard faible et chancelant, ait été entraîné, rien de plus simple, mais Philippe, cette nature ardente, vigoureuse, tenace, Philippe, ce bras d'acier, Philippe, responsable de sa sœur, c'était impossible, Philippe avait lutté et devait avoir vaincu. Le baron, comme tout égoïste, ornait Philippe de toutes les qualités qu'exclut l'égoïste pour lui-même, mais qu'il recherche dans les autres. Ne pas être fort, généreux, vaillant, pour l'égoïste, c'est être égoïste, c'est-à-dire son rival, son adversaire, son ennemi, c'est lui voler des avantages qu'il croit avoir le droit de prélever sur la société. Monsieur de Tavernay, s'étant ainsi rassuré par la force de son propre raisonnement, conclut d'abord que Philippe avait tout naturellement dû sauver sa sœur, qu'il avait perdu peut-être un peu de temps à chercher son père pour le sauver à son tour, mais que, vraisemblablement, certainement même, il avait repris le chemin de la rue Coq-Héron pour amener André, un peu étourdi, de tout ce fracas. Il fit donc volte-face et, descendant la rue du couvent des Capucines, il gagna la place des Conquêtes, ou Louis le Grand, appelée aujourd'hui la place des Victoires. Mais à peine le baron était-il arrivé à 20 pas de l'hôtel que Nicole, placée en sentinelle sur le seuil de la porte où elle bavardait avec quelques commères, cria « Eh, monsieur Philippe, et mademoiselle André, que sont-ils devenus ?» Car tout Paris savait déjà, des premiers fuyards, la catastrophe, exagérée encore par la terreur. « Oh, mon Dieu !» s'écria le baron, un peu ému, « est-ce qu'ils ne sont pas rentrés, Nicole ?»« mais non, monsieur, on ne les a pas vus !» « Ils auront été forcés de faire un détour, » répliqua le baron, tremblant de plus en plus à mesure que se démolissaient les calculs de sa logique. Le baron demeura donc dans la rue à attendre son tour avec Nicole qui gémissait et la Brie qui levait les bras au ciel. « Ah, voilà monsieur Philippe !» s'écria Nicole avec un accent de terreur impossible à décrire, car Philippe était seul. En effet, dans l'ombre de la nuit, accourait Philippe, haletant, désespéré. « Ma sœur est-elle ici ? » s'écria-t-il, du plus loin qu'il aperçut le groupe qui encombrait le seuil de l'hôtel. « Oh, mon Dieu !» fit le baron, pâle et trébuchant. « André, André !» s'écria le jeune homme en approchant de plus en plus. « Où est André ?»« Nous ne l'avons pas vue, elle n'est pas ici, monsieur Philippe. Oh, mon Dieu, chère demoiselle !» cria Nicole, éclatant en sanglots. « Et tu es revenu, » dit le baron avec une colère d'autant plus injuste que nous avons fait assister le lecteur au secret de sa logique. Philippe, pour toute réponse, s'approcha, montra son visage sanglant et son bras brisé, et pendant à son côté comme une branche morte. « Hélas, hélas !» soupira le vieillard. « André, ma pauvre André !» Il retomba sur le banc de pierre adossé à la porte. « Je la retrouverai, morte ou vive !» s'écria Philippe d'un air sombre, et il reprit sa course avec une fiévreuse activité. Tout en courant, il arrangeait de son bras droit son bras gauche dans l'ouverture de sa veste. Ce bras inutile l'eût gêné pour entrer dans la foule, et s'il eût eu une hache, il se le fût abattu en ce moment. Ce fut alors qu'il retrouva sur ce champ fatal des morts que nous avons visité Rousseau, Gilbert et le fatal opérateur qui, rouge de sang, semblait bien plutôt le démon infernal qui avait présidé au massacre que le génie bienfaisant qui venait y porter secours. Philippe erra une partie de la nuit sur la place Louis XV, ne pouvant se détacher de ses murailles du garde-meuble près duquel Gilbert avait été retrouvé, portant incessamment ses yeux sur ce lambeau de mousseline blanche que le jeune homme avait conservé, froissé, dans sa main. Enfin, au moment où les premières lueurs du jour blanchissaient l'Orient, Philippe, exténué, prêt à tomber lui-même au milieu des cadavres, moins pâle que lui, saisi d'un vertige étrange, espérant à son tour, comme l'avait espéré son père, qu'André serait revenu ou aurait été ramené à la maison, Philippe reprit le chemin de la rue Coq-Héron. De loin, il aperçut à la porte le même groupe qu'il y avait laissé. Il comprit qu'André n'avait point reparu et s'arrêta. De son côté, le baron le reconnut. « Eh bien » cria-t-il à Philippe. « Quoi, ma sœur n'est point revenue ?» demanda celui-ci. « Hélas !» crièrent ensemble le baron, Nicole et la Brie. Philippe tomba sur le banc de pierre de l'hôtel. Le baron poussa une sauvage exclamation. En ce moment même, un fiacre apparut au bout de la rue, s'approcha lourdement et s'arrêta en face de l'hôtel. Une tête de femme apparaissait à travers la portière, renversée sur son épaule et comme évanouie. Philippe, réveillé en sursaut à cette vue, bondit de ce côté. La porte du fiacre s'ouvrit et un homme descendit, portant André entre ses bras. « Morte, morte, on nous la rapporte !» s'écria Philippe en tombant à genoux. « Morte !» balbutia le baron. « Oh, monsieur, est-elle véritablement morte ?» « Je ne crois pas, messieurs, » répondit tranquillement l'homme qui portait André. « Et mademoiselle de Tavernet, je l'espère, n'est qu'évanouie. »« Oh, le sorcier ! Le sorcier !» s'écria le baron. « Monsieur le comte de Balsamo, » murmura Philippe. « Moi-même, monsieur le baron, est assez heureux pour avoir reconnu mademoiselle de Tavernet dans l'affreuse mêlée. »« Où cela, monsieur ?» demanda Philippe, « près du garde-meuble. »« Oui, » dit Philippe. Puis, passant tout à coup de l'expression de la joie à une sombre défiance, « Vous la ramenez bien tard, comte, » dit-il. Monsieur, répondit Balsamo sans s'étonner, vous comprendrez facilement mon embarras. J'ignorais l'adresse de mademoiselle votre sœur, et je l'avais fait transporter par mes gens chez madame la marquise de Savigny, l'une de mes amies, qui loge près des écuries du roi. Alors ce brave garçon que vous voyez, et qui m'aidait à soutenir mademoiselle, venez, comptoir. Balsamo accompagna ces dernières paroles d'un signe, et un homme à la livrée royale sortit du fiacre. Alors, continua Balsamo, ce brave garçon qui est dans les équipages royaux a reconnu mademoiselle pour l'avoir conduite un soir de la Muette à votre hôtel. Mademoiselle doit cette heureuse rencontre à sa merveilleuse beauté. Je l'ai fait monter avec moi dans le fiacre et j'ai l'honneur de vous ramener, avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle de Tavernet, moins souffrante que vous ne le croyez. Et il acheva en remettant avec les égards les plus respectueux la jeune fille dans les bras de son père et de Nicole. Le baron sentit pour la première fois une larme au bord de sa paupière, et tout étonné qu'il dût être de cette sensibilité, il laissa franchement couler cette larme sur sa joue ridée. Philippe présenta la seule main qu'il eut libre à Balsamo. Monsieur, lui dit-il, vous savez mon adresse, vous savez mon nom. Mettez-moi, je vous prie, en demeure de reconnaître le service que vous venez de nous rendre. J'ai accompli un devoir, monsieur, répliqua Balsamo. Ne vous devais-je pas l'hospitalité? Et saluant aussitôt, il fit quelques pas pour s'éloigner, sans vouloir répondre à l'offre que lui faisait le baron d'entrer chez lui. Mais se retournant, pardon, dit-il, j'allais oublier de vous donner l'adresse précise de madame la marquise de Savigny. Elle a son hôtel rue Saint-Honoré, proche des Feuillants. Je vous dis cela au cas où mademoiselle de Tavernet croirait devoir lui rendre une visite. Il y avait dans cette explication, dans cette précision des détails, dans cette accumulation de preuves, une délicatesse qui toucha profondément Philippe et même le baron. Monsieur, dit le baron, ma fille vous doit la vie. Je le sais, monsieur, et j'en suis fier et heureux, répondit Balsamo. Et cette fois, suivi de Comtois qui refusa la bourse de Philippe, Balsamo remonta en fiacre et disparut. Presque au même moment, et comme si le départ de Balsamo eût fait cesser l'évanouissement de la jeune fille, André ouvrit les yeux. Cependant, elle resta encore quelques instants muette, étourdie, les regards effarés. Mon Dieu, murmura Philippe, Dieu ne nous l'aurait-il rendue qu'à moitié? Serait-elle devenue folle? André sembla comprendre ces paroles et secoua la tête. Cependant, elle continuait de rester muette et comme sous l'empire d'une espèce d'extase. Elle se tenait debout et un de ses bras était étendu dans la direction de la rue par laquelle avait disparu Balsamo. Allons, allons, dit le baron, il est temps que tout cela finisse. Aide ta sœur à rentrer, Philippe. Le jeune homme soutint André, son bras valide. La jeune fille s'appuya de l'autre côté sur Nicole et, marchant, mais à la manière d'une parole endormie, elle rentra dans l'hôtel et gagna son pavillon. Là seulement, la parole lui revint. Philippe, mon père, dit-elle. Elle nous reconnaît, elle nous reconnaît, s'écria Philippe. Sans doute, je vous reconnais, mais que s'est-il donc passé, mon Dieu? Et André referma ses yeux, cette fois non point pour l'évanouissement, mais pour un sommeil calme et paisible. Et Nicole, restée seule avec André, la déshabilla et la mit au lit. En rentrant chez lui, Philippe trouva un médecin que le prévoyant Labri avait couru chercher du moment où l'inquiétude avait cessé pour André. Le docteur examina le bras de Philippe. Il n'était point cassé, mais luxé seulement. Une pression habilement combinée fit rentrer l'épaule dans l'articulation d'où elle était sortie. Après quoi, Philippe, encore inquiet pour sa sœur, conduisit le médecin près du lit d'André. Le médecin prit le pouls, écouta la respiration et sourit. Le sommeil de votre sœur est calme et pur comme celui d'un enfant, dit-il. Laissez-la dormir, chevalier, il n'y a rien d'autre à faire. Quant au baron, suffisamment rassuré sur son fils et sur sa fille, il dormait depuis longtemps.